Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
C'est un roman vrai, passionnant. Vrai car il part d'un fait authentique auquel s'ajoutent des personnages secondaires et des situations plausibles mais fictives. Passionnant car on y trouve une trame historique, une ambiance digne d'un roman policier, une vaste érudition et beaucoup d'humour. Le tout dans une langue libre qui évolue dans tous les registres ou presque. De plus, au moment où les partis d'extrême droite tentent de prendre le pouvoir dans différents pays, cet ouvrage nous rappelle ce qu'engendre un pouvoir totalitaire quand l'aveuglement ou une forme de lâcheté le laisse s'installer. Il s'agit d'un roman intitulé Le Sauvetage, édité chez Fayard, et j'ai le grand plaisir de recevoir son auteur, Bruce Bégout. Bruce Bégout, bonjour.
Bonjour.
De quel sauvetage s'agit-il ?
Il s'agit du sauvetage de manuscrits inédits d'un philosophe allemand d'origine juive, Edmund Husserl, qui a laissé à sa mort 40 000 pages de textes inédits et ses propres ouvrages et différentes choses, enfin tout un ensemble de textes posthumes et d'ouvrages donc qui ont été sauvés.
Alors, déjà un mot pour nos auditeurs sur Husserl, parce que tout le monde ne le connaît pas.
Oui, c'est un philosophe allemand qui est le père de ce qu'on a appelé la phénoménologie, donc un courant philosophique majeur du XXe siècle, auxquels appartiennent Heidegger, Sartre, Lévinas.
Kant, non, pas Kant.
Kant, c'est un siècle avant. Mais il a écrit. Le terme de phénoménologie existait avant Husserl, chez Hegel, chez Kant. Mais Husserl est vraiment celui qui a fixé, on pourrait dire, la phénoménologie comme une méthode et un courant de pensée. Donc c'est une grande figure de la philosophie, l'université allemande, qui est mort en avril 1938. Voilà.
Oui, il faut dire, si je ne suis pas indiscrète, c'est que vous-même êtes philosophe.
Oui, je suis philosophe et j'ai fait ma thèse sur Husserl et sur les manuscrits inédits qui ont donc été sauvés.
Et c'est comme ça que vous avez connu l'histoire.
Oui, j'ai connu l'histoire presque 30 ans, quand j'étais élève à l'école normale supérieure, où j'ai commencé à travailler sur Husserl pour un DEA. Et bien évidemment, j'ai commencé à consulter des manuscrits inédits et j'ai connu cette histoire du sauvetage des manuscrits inédits par un jeune père franciscain, Léo van Breda, qui lui-même a raconté en 1957, le texte a été publié en 59, mais il a rencontré en 1957.
Mais vous ne l'avez pas rencontré, non ?
Non, parce qu'il est mort en 74, donc j'avais 7 ans en 74. Donc...
Oui, mais je me suis dit peut-être qu'il a vécu très 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 longtemps.
Alors, j'ai rencontré des gens qui l'ont connu.
Qui l'ont connu. Voilà. Alors oui, évidemment, quand votre livre commence, Husserl est mort. Et il y a d'ailleurs, il est en train de mourir. Il y a une très belle description de la mort de Husserl, vraiment très belle, très émouvante. Et très vrai, finalement, pour qui a eu un membre de sa famille, mourir, on est ému par cette description, ce passage de la vie à la mort, dans une forme de sérénité.
Oui. D'ailleurs, Husserl l'a dit, vous savez, il y a toujours cette question des derniers mots, des grands penseurs ou des grands écrivains. Et Husserl a dit quelque chose de très étonnant. Que Fink a entendu, dans tout le roman d'ailleurs, Van Breda essaie de savoir ce que Fink a dit, ce que Husserl a dit à Fink, et Husserl l'a dit sur son lit de mort, enfin ce sont ses dernières paroles, et il a dit ceci d'extraordinaire, il a dit « J'ai vu quelque chose d'extraordinaire, non, je ne peux pas le dire, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire, maintenant je dois tout recommencer à nouveau ». Sachant qu'il a écrit de nombreux ouvrages, de nombreux cours, etc. Donc on voit le type de philosophe que c'était, toujours au travail, toujours une œuvre inachevée. Ouais. Et même à la fin de sa vie, il garde encore une sorte comme ça,
formidable, ça.
D'énergie intellectuelle pour dire « je dois tout recommencer à nouveau ». Alors on ne sait pas ce qu'il a vu d'extraordinaire, mais donc dans la mort est aussi poignante aussi pour cela. Mais je l'ai un peu romancé parce que il y avait beaucoup moins de personnes présentes, étant donné... le blocage et le désert qui avait été constitué autour de sa famille.
Oui, parce qu'on va en parler, nous sommes en 1938.
Oui, nous sommes en 1938, et depuis 1933, Husserl qui est à la retraite, mais qui est philosophe converti au protestantisme, mais quand même juif, ouais, pour les nazis, et interdit de déplacement, interdit
de tout,
oui, de faire des conférences, d'aller à la bibliothèque, il n'a plus le droit d'avoir des assistants payés par l'université, etc. Donc il est reclus, au fond, dans sa maison et dans sa bibliothèque.
Et Fink, là, qu'est-ce qu'il fait à côté de lui ?
Fink, c'est son assistant.
Son assistant.
Il avait plusieurs assistants.
Le notamment. Seul fidèle.
Oui, il y avait un autre qui était en République tchèque, s'appelait Landgrebe, et Edith Stein aussi, qui est connue, parce qu'elle est devenue presque un martyr, et même elle a été sanctifiée.
Oui, bien sûr, oui, oui.
Donc, voilà, c'était quelques assistants qui demeuraient fidèles au maître. Oui. Et donc, bien évidemment, sa mort a quelque chose de poignant, et le roman commence avec effectivement la description de sa mort, et finit avec un épilogue aussi un peu décalé par rapport à l'histoire.
Oui. Alors, le personnage principal, c'est malgré tout Léo Van Breda.
Oui, oui, c'est vrai.
Alors, qui est ce personnage ?
Alors, donc, c'est un jeune...
ce personnage qui a existé.
Oui, bien sûr, bien sûr. Ce que je raconte est globalement vrai. J'ai arrangé quelques petits éléments pour des raisons que je pourrais expliquer. Mais Léo Van Breda, donc Hermann Léo Van Breda, parce qu'il a pris le prénom Hermann quand il est passé dans la congrégation des franciscains. Donc, il y avait comme ça un nouveau prénom.
Hermann.
Oui,
ah,
Hermann,
il a pris un prénom allemand.
Oui, mais sinon, son vrai prénom, c'est Léo. Léon. Oui,
d'accord.
Donc, Léon Van Breda. Voilà, je pense que c'était plutôt Léon. Léon.
Ah oui, d'accord.
Donc c'est un jeune étudiant de philosophie. Donc
à l'Université catholique de Louvain. Qui est très célèbre,
oui,
qui a toujours été.
Et qui donc est aussi sort du séminaire où il est donc c'est franciscain, enfin un père franciscain. Et donc en 1926, il entame un doctorat sur Husserl. Et il sait, donc Husserl est mort il y a quelques mois, et il sait qu'il y a des textes inédits qui traite de la question qu'il veut traiter.
Les bruits courent, mais on ne sait pas exactement.
Voilà. Et donc lui, il sait qu'il y a ces textes inédits, et donc son directeur de thèse, Joseph Dopp, l'envoie en Allemagne pour consulter peut-être ces textes et voir s'il peut en tirer matière pour sa thèse. Et en même temps, il a une autre petite mission, c'est peut-être de publier quelques manuscrits dans la revue philosophique de Louvain. Voilà, il a une double mission à la fois pour son doctorat et une mission, on pourrait dire, éditoriale, si l'on veut.
Et on va voir d'ailleurs les états d'âme et les angoisses de son directeur de thèse et du directeur de l'université, d'ailleurs.
Mais
quel est ce personnage, moi, j'ai trouvé fort sympathique.
Oui.
Alors, vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Oui, alors, on ne sait pas grand-chose, parce que lui-même a été assez discret sur sa vie, sur son parcours. Et quand j'ai commencé... En fait, dès que j'ai connu l'histoire, au début des années 90, je voulais déjà en faire un roman, mais bon, j'avais mon doctorat à finir, ensuite je suis devenu universitaire, donc plein de travaux, et finalement, il n'y a que quelques années que je me suis remis au travail. Mais toutes les personnes que j'avais interrogées à cette époque, et encore récemment, me disaient que bon, c'était quelqu'un qui aimait s'entourer de mystères, et on ne savait pas grand-chose de lui. Si ce n'est que c'est quelqu'un qui a créé donc, les archives Husserl à Louvain, qui était très... organisé, presque un entrepreneur, c'est-à-dire quelqu'un de très investi dans l'action pratique. Il a même délaissé au fond son travail philosophique pour l'action pratique. Il a créé tout un réseau de chercheurs en Europe.
Peu enclin à l'introspection.
Oui, oui, finalement, oui, finalement. Et d'ailleurs, je le montre dans le roman, parce qu'il vient pour travailler à son doctorat, et très vite, il se lance dans une entreprise folle.
Qui le dépasse.
Qu'il dépasse, et lui-même, au fond, il y a un côté homme d'action, quoi, que je souligne dès la première présentation. Je le présente presque comme un personnage de film noir américain, voilà, en costume trois pièces.
Oui, effectivement. Mais en même temps, alors moi, quand je dis d'emblée, il m'a été sympathique. D'abord, je trouve très original.
Oui.
Bon, déjà, cette aventure avec son chat, qu'il a trouvé un chat pouilleux, vraiment, dont il s'occupe, qui dort même avec lui, et qui, on ne sait pas pourquoi. Vous dites qu'il y a un rapport avec le chien.
Oui, pour moi, c'était une forme de parallélisme, parce qu'il y a un autre personnage, on peut dire, principal, enfin secondaire, qui est l'homme de la Gestapo qui le suit, qui enquête sur lui, qui lui-même a un chien un peu malade et tout. Donc les deux, au fond, sont... c'est une sorte de parallélisme dans leur rapport à l'animal, et donc le rapport d'ailleurs de Van Breda n'est pas tout à fait... Puis Van Breda était franciscain, donc d'une certaine manière, on peut supposer qu'en raison de l'importance qui est accordée chez les franciscains à l'animal et à toutes les créatures vivantes.
Oui, il y a cette simplicité de vie également.
Oui,
on le voit à plusieurs reprises.
Oui,
c'est un homme simple, droit,
qui
quand même...
Obstiné aussi.
Obstiné,
oui.
qui est dans la contemplation. Peut-être pas l'introspection, mais la contemplation, certains moments, on le ressent.
Oui, parce que au fond, il dit que la simplicité de ses vêtements, la simplicité des lieux dans lesquels il vit, il s'est détaché, au fond, de soucis et d'intérêts que les autres hommes et femmes poursuivent. Et cela permet, au fond, bon, ce qui est l'activité principale et d'un philosophe et d'un homme d'église, à savoir la vie spirituelle et contemplative.
Bien sûr. Bien sûr. Alors, évidemment, on n'a pas dit où se trouvent exactement ces textes pour lesquels il s'est déplacé. Oui. Nous sommes dans le pays de Bade.
Oui, à Fribourg, en Brisgau.
Voilà, non loin de Baden-Baden, non loin de la frontière française, finalement.
Tout près, oui, tout près, oui.
Et quelle année, quelle époque
En 1938, donc quand il arrive à Fribourg, donc c'est en août 1938, et toute l'action se passe en septembre 1938, c'est-à-dire en plein dans la crise des Sudètes ou la crise de Munich, c'est-à-dire dans une période très sombre où tout le monde pense que la guerre va être déclarée, puisque bon, Hitler fait quelques provocations par rapport à ces Sudètes de langue allemande qui seraient soi-disant persécutées par les Tchèques en République tchèque, etc. Et donc veut annexer les zones Sudètes, et ensuite d'ailleurs il arrivera, et puis il envahira la Tchécoslovaquie, puis enfin c'est donc
Oui, alors c'est déjà une période très sombre, on va y revenir, mais on peut déjà parler aussi à Louvain, il y en a deux quand même qui sont très embêtés.
Oui, alors ils sont très embêtés surtout parce que lorsque Van Breda arrive à entrer en contact avec la veuve de Husserl, Malvin Husserl, qu'il se rend compte du nombre de manuscrits qui existent et que Madame Husserl le prie presque de l'aider, isolée qu'elle est, pour sauver ses manuscrits, il se lance dans une entreprise qui n'était pas prévue au départ dans sa propre mission.
Et,
et donc il met un peu sa hiérarchie à la fois universitaire et catholique au pied du mur. Enfin, il les prend comme ça au dépourvu et il décide un tout ou rien, c'est-à-dire il décide de tout sauver. Alors que ce n'était pas du tout sa mission. Donc son directeur de thèse et le doyen de l'Institut supérieur de philosophie, Monseigneur Noël, sont un peu débordés, étonnés, parce qu'ils ont peur pour lui. S'il n'était là que pour consulter les manuscrits, mais là, il se lance dans une entreprise un peu téméraire qui peut le conduire à la mort, parce que de nombreux catholiques sont envoyés dans des camps, torturés.
On en parlera de cela aussi. Oui. Parce que Joseph Dope, c'était lui, Nobody's Perfect, qui avait aiguillé quelque temps auparavant Van Breda vers Husserl. C'était encore sur ses conseils que ce dernier était parti la fleur au fusil à Fribourg pour consulter des manuscrits inédits de Husserl et en dresser un état des lieux. Autant dire que Dope se sentait, peut-être encore plus que son supérieur, Monseigneur Noël, entièrement responsable de la galère dans laquelle était embarqué son élève. Il éprouvait ainsi le regret de l'avoir, un peu par son imprudence, jeté dans ce guépier. Mais il ne servait à rien pour l'heure de s'abandonner à des pensées accablantes, il fallait répondre plus vite au jeune franciscain et lui indiquer à distance la voie à suivre. Et là, alors évidemment, c'est un enchaînement de situations que l'on suit. Il y a du rythme, hein, il y a d'action.
En fait, Van Breda a écrit un petit récit qui fait 15-20 pages et il ne dit pas grand-chose. C'est-à-dire, il ne dit pas grand-chose. Il y a plusieurs raisons à cela.
Sa modestie,
sa modestie, mais aussi peut-être le fait qu'il a voulu ne pas compromettre certaines personnes qui auraient pu l'aider, qui ne l'ont pas aidé. Et comme ensuite, après-guerre, il a besoin, pour monter et pour consolider les archives Husserl, d'une solidarité des chercheurs européens, il ne veut pas créer de polémiques inutiles en pointant du doigt les gens qui ne l'ont pas aidé. Ce qui fait qu'il y a une certaine retenue dans son texte. Et moi, je me suis engouffré, au fond, dans les interstices du texte de Van Breda pour créer une sorte de rythme trépidant qui existe. Parce que, en fait, l'action réelle, historique, a duré quelques semaines, et il essaie plusieurs solutions pour sauver ses manuscrits, et donc on suit ça presque au jour le jour, voit toutes les entreprises qu'il fait, les échecs, et donc il y a une certaine forme de trépidation due aussi au moment historique qui est cette crise des Sudètes.
C'est pas Indiana Jones, mais presque.
Oui, parce que tout autour de lui, il y a des défilés militaires, il y a la mobilisation, il y a l'inquiétude.
Alors justement, comment découvre-t-il l'Allemagne? Alors j'aimerais bien, Bruce Bégout, que vous nous lisiez un passage de ce qui le perturbe dans cette ville, à la page 104.
Alors ce qui le perturbe, c'est ceci. Tout est propre. Effroyablement propre. Ce n'est pas comme en son bon pays Brabant où, dans les petites villes en briquettes noires et les grandes fermes en U, règne une sorte de négligé méridional. Pavés à demi arrachés, pans de murs avachis, bourrelets de détritus dans les rigoles, boues séchées qui ponctuent les chemins. Ici, dans le Naziland, tout est d'une propreté impeccable et terrible. Pas le moindre pile de débris au coin d'une rue, pas le moindre papier gras, mégot, crachat sur le trottoir, pas le moindre amas de poussière dans un coin. Une vraie pub pour les détergents, le pavé lui, les enseignes étincelles, les caniveaux rivalisent avec les bains, on pourrait y faire sa toilette. Même les déchets ne sont pas jetés dans les poubelles, mais semblent y être minutieusement rangés, comme des habits repassés dans un tiroir. Comme si on avait rincé les trognons de pommes et les autres rognures avant de les déposer. Aucun mur n'est bardé d'affiches arrachées ou d'inscriptions sauvages, cela va de soi. Nulle part une dérogation à l'ordre.
Voilà. Voilà. Et ça, c'était l'Allemagne à une époque et un ordre tellement grand que tout le monde avait le doigt sur la couture du pantalon.
Oui, un peu, oui. Bon, forcément, c'était une société totalitaire qui exigeait une discipline, un respect. Mais moi, j'ai essayé de montrer, et mon personnage de Lehmann me sert à ça, que derrière cette propreté, il y a quand même...
Des turpitudes.
Oui, turpitudes, et pas simplement une saleté morale, mais il y a aussi la drogue, la sexualité, le goût pour les magazines sensationnaliste.
Oui. On le voit ça, très... oui, oui, maintenant que vous oui. m'en parlez, oui. à Berlin, dans oui. les... quand il y a un film, je ne sais plus, on montre un cabaret, oui. où on voit que c'est quand même toujours dans une atmosphère glauque, justement.
Oui, oui,
parce que justement, il
oui.
y a ce besoin, peut-être, ce que oui. vous dites, hein, de montrer de l'ordre extérieurement.
Je crois que chez les nazis, il y avait aussi cette bipolarité, oui. c'est-à-dire oui. cet ordre, ce goût de la discipline, de la hiérarchie, de la fermeté.
Qui ne les empêchait pas.
Et en même temps, un goût pour la débandade
la
morale,
débauche.
La débauche, etc. Et l'excès en tout genre. Hein. Donc, notamment les drogues. Hein. De nombreux historiens ont montré ces dernières années qu'il y avait un usage quasi quotidien de drogues pour les soldats, pour les oui. membres du parti. Oui. Et d'ailleurs, mon Lehmann lui-même a toujours ces petites pilules bleues de pervitine.
Et même les grands dignitaires
oui.
étaient,
oui,
étaient
sûr,
drogués
ouais.
pour la
ah,
plupart.
Ouais. Ouais.
Alors, tout est propre, tout est sous contrôle, et en même temps, c'est une atmosphère lourde.
Oui, oui, je l'ai traité un peu à la manière de la peinture expressionniste allemande mmh. ou du cinéma expressionniste allemand. Donc, j'ai exagéré certaines choses et j'ai mélangé les niveaux de langue, etc., pour créer une sorte de chaos sensoriel. De grandes parades d'ombres lugubres, de carnaval à la fois farcesque et inquiétant. Et vraiment, en le traitant à la manière expressionniste, d'ailleurs, bon, je fais des allusions discrètes à Autodix ou à Georg Grosch, comme ça. Et mon jeune Van Breda, qui lui incarne quelque chose de clair, de simple, un peu comme Tintin, vous voyez, la ligne claire d'Hergé, mmh. un personnage comme ça qui n'a pas de psychologie, qui n'a pas de sexualité, qui n'a mmh. pas d'émotion, qui ne montre rien, qui avance
oui.
droit. Qui lui fait les choses, mais autour de lui, il est pris comme ça dans un univers très, très sombre, très
qu'il
fou.
Qu'il oui. ne voit pas finalement, on en reparlera de ça.
À la fin, quand peut-être. Il est à Berlin, là, il y a une forme, il croit échouer, donc là, il y a une forme d'inquiétude. Oh. Mais c'est vrai, jusqu'alors, oh. il avance comme une sorte de flèche, comme ça, quasiment
oui.
imperturbable.
Oui. Et en même temps, alors, tout est propre, oui. tout est net, on l'a dit. Et en même temps, il y a quand même, on voit des choses, il voit des choses dans
oui,
la
oui,
rue.
Oui, bien sûr. Oui.
Voilà, parce que c'est le début, et peut-être pas tout à fait le début, parce que le début c'était en 1936, il me semble, oui. hein, des pogroms, persécution des juifs, les magasins.
Oui, alors deux mois après, ce
Vous
sera la
parlez,
nuit de
d'ailleurs.
Cristal.
Hein.
Deux mois
oui,
après, ce sera
voilà.
la nuit de Cristal en novembre. Oui. L'action se passe en septembre. À Fribourg, en Brisgau, en novembre, donc deux mois après, la synagogue sera brûlée. Mmh. Les pompiers regarderont la synagogue brûlée, personne n'interviendra, etc. Donc, et bien évidemment, il y aura des magasins où des personnes juives attaquées, torturées, tuées. Donc, bien évidemment, on est dans ce climat. Et lui, il y a quelques scènes, notamment dans le tramway, où des gens qui le regardent mal, parce qu'il faut dire qu'il y avait une politique aussi anti-catholique du régime nazi, et une violence anti-catholique, notamment de l'ASA ou d'un journal. De Streicher qui s'appelait Die Stürmer, etc., qui était vraiment très très anticatholique. Donc lui, il est
mal vu.
Oui, il est noyé dans ce maelstrom de folie, quoi.
Oui.
Donc
et il passe imperturbable. Comme vous dites, on le verra petit à petit, il apprend quand même.
Oui, bien
en
sûr,
même temps, il a une âme pure. Je le vois comme ça.
Alors, soit il ne se rend pas compte.
Oui, il est dans ses...
Voilà,
oui.
Soit il n'a pas conscience des dangers qu'il court, et donc il avance parce qu'il est, jeune, il n'a pas vraiment voyagé jusqu'à présent, il a été au séminaire et à l'université, donc vous allez me dire, ça ne vous aide pas vraiment pour avancer dans la vie extérieure, etc.
Ouais.
Plutôt des lieux reclus où on est toujours avec des gens un peu de son même milieu, etc. Et donc, bon, soit il a cette forme d'innocence, soit il ne veut pas trop prendre conscience de ce danger-là, pour ne pas fragiliser sa propre action. Donc il a besoin presque de suspendre les raisons de
ne
douter,
voir que
quoi.
Son but. Ça,
voilà.
Ce,
alors
ce,
lui, effectivement, je le présente comme quelqu'un qui se fixe un but, presque par défi au départ, en disant presque un peu par forfanterie, en disant je vais vous aider, je vais tout sauver. Et puis comme sa parole l'engage, bah, il ne peut plus reculer, et donc maintenant, bah, il doit y aller. Enfin, ça y est, il s'est engagé et il est pris.
Et à Fribourg, il est accueilli, il va au monastère, dans un monastère.
Oui.
Comment est-il accueilli là ?
Alors, comme il y a cette politique anticatholique, et comme lui, tout de suite, informe sa hiérarchie qu'il veut quand même sauver des manuscrits d'un philosophe juif...
Ça dérange.
Ça dérange, sa hiérarchie lui dit attention, parce que si on découvre ce que vous faites, non seulement vous pouvez être inquiété, mais tout le couvent lui-même peut subir des mesures de rétorsion. Donc il y a des gens qui l'aident et d'autres qui se méfient. Notamment, il y a un personnage qui est Felk, qui fait semblant de l'aider et qui ensuite un personnage un peu trouble comme ça. Voilà.
Oui. Bon, alors, il est donc dans ce monastère et il va rencontrer la veuve de Husserl, qui, elle, est toute acquise à son idée de protéger. Et en particulier, à un moment donné, ce que vous dites, et on comprend cette femme qui sent autour d'elle l'étau se resserrer, elle dit, elle était par ailleurs totalement convaincue comme lui de l'impérieuse et urgente nécessité, c'est d'elle, impérieuse et urgente nécessité, de créer un centre de recherche à l'étranger, loin des barbares. En l'absence de l'héritier légal, elle était habilitée par délégation à autoriser une telle opération qui impliquait évidemment de confier à l'ISP de Louvain, etc.
Oui.
Ça, c'est vers la fin. Dans un premier temps, elle veut lui confier quand même, elle a compris que ses textes étaient en danger.
Oui, bien sûr. Ces manuscrits, il est évident que jamais les autorités nazies n'aurait créé une fondation pour sauver des manuscrits d'un philosophe.
Au contraire, ils les auraient brûlés.
Voilà, ils les auraient brûlés. Et donc, ces manuscrits sont pas cachés, mais enfin, ils sont dans la maison. Mais peu de gens connaissent leur existence. La preuve, c'est que Van Breda, qui travaillait sur Husserl, était à peine au courant de ce qu'il y avait dans ces manuscrits et de leur quantité. Et donc, quand Van Breda arrive, pour elle, c'est presque miraculeux. Quoi. Elle va s'attacher à lui. D'ailleurs, ils vont avoir, après-guerre, des rapports très filiaux. Parce qu'ensuite, il va permettre à Madame Husserl de quitter l'Allemagne, d'être protégée en Belgique. Elle va même vivre dans un couvent protégé, caché pendant toute la guerre, parce qu'elle est juive elle-même.
Oui.
Et donc, de 40 à 1945, elle est cachée dans un couvent. D'ailleurs, elle va se convertir au catholicisme. Et ensuite, elle partira aux États-Unis après-guerre, rejoindre ses deux enfants qui vivent aux États-Unis. Donc, va se créer entre Van Breda et Malvin Husserl une vraie relation filiale. Mais là, tout de suite, elle le voit, comme quelqu'un qui un sauveteur, quoi.
Un sauveteur.
Qui, par sa détermination, par sa gentillesse, lui propose des solutions et presque elle dit oui à
bien
tout.
Sûr,
et puis, il va réussir.
Alors, Bruce Becbou, je vous propose une pause musicale. Alors, j'ai choisi un extrait du film Le Troisième Homme. Alors, ça paraît bizarre parce que ça se passe à Vienne, en Autriche, et ça se passe juste après la guerre. Mais ce film qui était remarquable, je ne sais pas si vous l'aviez vu,
bien sûr,
probablement.
Avec Orson Welles
en particulier, montre l'atmosphère un peu lugubre, délétère, qui reste encore, qui est encore présente. Rien n'est clair. Et puis d'ailleurs, on se rend compte que même après la guerre, il y a eu des choses pas très belles qui se sont passées, évidemment. On va écouter d'abord cette musique-là et nous reprenons ensuite.
Thank you.
Parole d'auteur. Monique Fauché.
Nous retrouvons Bruce Bégout qui vient nous parler de son nouveau roman. Alors c'est un roman sans être tout à fait un roman, car il y a beaucoup de vérité dans ce roman, et en particulier l'histoire de ce moine, Léo
Van Breda,
qui a été un héros. On parlera de l'héroïsme d'ailleurs, vous en parlez à un moment donné. Et c'est très, très intéressant. Alors Bruce Bégout a écrit donc une histoire assez incroyable, c'est pas à la poursuite du diamant vert, mais quasiment, il est allé en Allemagne au moment où tout commençait à se déglinguer, si je peux dire, où le parti nazi prenait vraiment le pouvoir le plus abject, et où les juifs déjà étaient malmenés, pas que les juifs d'ailleurs, hein, il y a eu aussi les homosexuels, les gitans,
les communistes
évidemment. Et puis on va voir, on en parlera aussi, les chrétiens. Et donc là, il va voir la veuve du philosophe Husserl pour s'enquérir de ce que sont devenus les écrits qu'a laissé ce philosophe de phénoménologie, des textes. Et qu'est-ce qu'il découvre, au stupeur, que ce n'est pas quelques textes ?
Non, c'est 40 000 pages de manuscrits, qui plus est, écrits en méthode sténographique, donc illisible pour lui.
Alors qu'il était venu avec son crayon et ses cahiers, non ?
Et c'est ça qui m'a semblé, dès que j'ai eu connaissance de cette histoire, c'est ce qui m'a semblé fou. C'est-à-dire que ce père franciscain va sauver au péril de sa vie des manuscrits illisibles pour lui.
Il ne sait même pas ce qu'il y a dedans.
Non, il ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Ouais. Bon, il se doute que ce sont des écrits philosophiques, mais après tout, vous savez, il y a une histoire fameuse de Gödel, le grand mathématicien, qui après-guerre avait été recueilli en Allemagne, à Harvard, et comme il était très célèbre, etc.
Aux États-Unis,
l'université d'Harvard l'avait laissé tranquille dans un pavillon, il faisait ce qu'il voulait. Et quand il est mort, on a découvert plein de manuscrits de Gödel. Or, ces manuscrits parlaient d'extraterrestres, de formes extraterrestres. D'ailleurs, un ami, Pierre Kasounoguès, a écrit un livre qui s'appelle Les démons de Gödel, où il raconte ce fait. Et donc là, vous voyez, Gödel, on pense que ce qu'il écrit, c'est très sérieux. Donc Husserl aussi aurait pu écrire des choses tout à fait fantaisistes dans ses manuscrits. Or, ça n'a pas été le cas, parce qu'ensuite, ils ont été transcrits, on sait ce qu'il y a dedans. Mais enfin, Van Breda ne peut pas les lire. En plus, c'est une méthode sténo de la fin du 19e siècle.
Donc, peu de gens la connaissent.
Voilà. C'est-à-dire, Husserl avait appris la sténographie quand il était étudiant, pour prendre des notes de manière plus rapide en amphithéâtre. Et il a toujours gardé, au fond, cette technique pour écrire ses propres manuscrits. Et donc, très peu de gens, à part ses assistants, connaissent cette méthode sténo et les propres signes idiosyncrasiques de Husserl. Donc, ces textes, c'est vraiment, c'est la pierre de Rosette, si vous voulez. C'est illisible.
Oui. Donc, qui va traduire et qu'en faire sur place Et voilà, c'est la question. Donc, et là-dessus, autre élément dont il ne se rend pas compte, c'est que la Gestapo est au courant.
Oui, enquête. Dans son récit historique, Van Breda dit « J'avais l'impression d'être suivi ». Et il se demande « Mais comment ai-je pu réussir alors que certainement tout le monde était espionné, fiché, surtout un catholique ?»
Et qui venait d'extérieur.
Qui venait d'extérieur, qui se balade pendant un mois en Allemagne, ici ou là.
Et puis pas habillé comme le
quidam. Oui, bien sûr. Donc je me suis engouffré dans cette remarque de Van Breda. Et moi, j'ai imaginé quelqu'un de la Gestapo, de la section 4, donc celui qui s'occupait des affaires anticatholiques, qui le suit.
Parce qu'elle existait.
Oui, bien sûr, elle existait. Il y avait 4 sections. Un pour les francs-maçons, deux pour les affaires sémites, enfin, politiques antisémites, contre les catholiques. Et la quatrième, je ne me rappelle plus trop. Il y avait 4 sections comme ça de la police secrète qui enquêtaient, voire montaient des coups. Parce que le rôle aussi, c'était pour disqualifier l'Église catholique, de faire des faux procès pour des prêtres, des moniales, des curés, etc. Donc il faisait tout ça. Donc certainement, le couvent de Fribourg était surveillé.
D'ailleurs, il se méfie dans le couvent lui-même, puisqu'à un moment donné, ils vont renforcer les portes.
Bien sûr, parce qu'ils ont peur de représailles, d'ailleurs, qui existaient. De graffiti obscène, de choses comme ça, contre les catholiques. Surtout après l'encyclique de Pie XI, donc Mit Brennender Sorge, donc avec une vive inquiétude, qui d'une certaine manière, refroidit les relations entre le Vatican, enfin les catholiques et l'État nazi.
Oui. Oui, alors Pie XI, bon, on y reviendra tout à l'heure, qui dit « L'antisémitisme est inadmissible car spirituellement nous sommes tous sémites ».
Oui, c'est une phrase assez connue hein, qu'il avait dit à des Belges d'ailleurs, où d'ailleurs en septembre 1938, déjà dans Mit Brennender Sorge, c'est-à-dire l'encyclique, il condamnait toute forme de racisme biologique des nazis, alors, sans citer
est-ce
d'ailleurs...
Qu'on peut, excusez-moi, je vous interromps. On peut citer la traduction, pouvez-vous la dire, Sorge, c'est l'affliction.
Hein, oui, c'est l'inquiétude. Avec une inquiétude
brûlante,
voilà.
Oui, d'accord.
Comme une brûlure à
oui,
vif.
C'est ça.
Avec une inquiétude brûlante, oui. Et ce qui l'inquiétait de manière vive et brûlante, c'était justement la politique raciste et antisémite du Reich.
Oui.
Alors même qu'ils avaient conclu un concordat en 1933 avec eux.
Oui. Alors, comment exfiltrer, je ne sais pas si on dit ça, comment exfiltrer ce cadeau empoisonné? C'est quand même un cadeau, mais comment faire? Et alors là, il va y avoir plusieurs possibilités.
Oui, Van Breda va se creuser la tête et va imaginer d'abord de cacher les manuscrits en Allemagne, puis très rapidement, il va s'apercevoir que c'est impossible. Et puis surtout, il y a la crise des Sudètes, donc il faut agir vite parce qu'on pense que la guerre va être déclarée. Et si la guerre est déclarée, non seulement les manuscrits peuvent être détruits par les nazis, mais ils peuvent être aussi détruits par les bombardements français sur Fribourg, parce que Fribourg est juste de l'autre côté de la frontière franco-allemande.
Tout près de la France.
Et donc il faut agir très rapidement. Et là, Van Breda...
Et en plus, on risque de fermer les frontières.
Oui, bien sûr. Et donc là, Van Breda a l'idée d'utiliser la valise diplomatique de l'ambassade de Belgique. Donc d'abord, il va à Francfort, au consulat de Belgique le plus proche. Il est reçu par un citoyen allemand et non pas par un citoyen belge.
Déjà, comme il dit, c'est mal parti.
Voilà, donc déjà, il se dit, bon, est-ce que je vais... Et ce citoyen allemand, d'ailleurs, qui écoute sa requête, lui dit, mais seule l'ambassade de Berlin est habilitée à faire ce transfert. Et qui plus est, il faut que les affaires... appartiennent à un citoyen belge, ce qui n'est pas le cas parce que les manuscrits
sont allemands.
Sont allemands et appartiennent à la famille Husserl. Mmh. Donc en fait, ce que va faire Madame Husserl, c'est qu'elle va léguer officiellement tout l'héritage intellectuel et spirituel de Van Breda 15 jours après avoir connu Van Breda.
Enfin, elle fait ça dans les règles.
Oui, dans les règles, mais aussi dans l'urgence.
Dans l'urgence.
Elle lui fait une totale confiance, et elle le connaît à peine, et elle en fait son légataire universel.
Il devait avoir une bonne tête, ce Van Breda.
Oui, sans doute. D'ailleurs, c'était un bel homme, hein. je le présente comme ça. On
voit sur des sympathique
photos.
Aussi, hein, très franc.
Très, très grand, comme ça. Donc la deuxième solution, c'est la solution suisse. Parce que là, entre en scène un autre personnage,
Alors,
qui est sœur Adelgundis Jägerschmidt.
Alors, voilà. Oui, vive les femmes, je dirais. Parce que d'emblée, vous en faites un très beau portrait, je trouve.
Oui.
Une bénédictine, 200... Alors, voyons, excusez-moi.
Oui, je vous en prie.
Là, voilà, elle aussi a l'air très dynamique. Ce qui impressionne toujours Van Breda chez les bonnes sœurs, c'est l'éclat singulier de leur regard. Celui d'Adelgundis ne déroge pas à la règle. Bleu, profond, intense, intelligent, avec des bâtonnets d'ironie qui scintillent. Elle lui plaît aussitôt, il ne sera pas déçu.
Oui, parce qu'elle va l'aider, en fait, elle va l'aider.
Alors, sans tergiverser.
Oui, parce qu'en fait, cette Adelgundis Jägerschmidt, elle est au service de la famille Husserl depuis 2-3 ans. C'est-à-dire, autour de Husserl, il y avait plein de femmes philosophes, dont elle, Edith Stein, Adelgundis Jägerschmidt. Et donc, elle s'occupait de Husserl malade. Et elle a écrit, d'ailleurs, dans les années 70, un très beau portrait des dernières années de Husserl, où d'ailleurs, elle essayait un peu de le faire parler, comme ça, des anecdotes un peu personnelles. Et Husserl avait toujours une certaine réticence. Et donc, elle intervient parce qu'elle fait partie d'une congrégation, les Sœurs de Lioba, qui ont en fait une maison, une résidence
à Constance,
en Allemagne, mais sur la frontière suisse. C'est-à-dire que certains... De l'autre côté, c'est Kreuzlingen, et donc, mais les deux villes sont côte à côte, et donc il y a plein de rues où on peut passer, en fait, d'Allemagne en Suisse, et ces sœurs de Lioba ont des activités de charité des deux côtés. Et donc, sœur Adelgundis, on va peut-être faire passer les manuscrits par nos sœurs qui vont et viennent tous les jours d'un côté, du côté allemand, du côté suisse. Et donc, c'est la deuxième solution. Donc, Van Breda...
Parce que plutôt que d'aller à Berlin, c'est-à-dire traverser toute l'Allemagne.
Oui, et puis à Berlin, il n'est pas sûr que, pour les raisons qu'on a indiquées, que l'ambassadeur accepte. Donc la deuxième solution, c'est d'aller à Constance. Donc là, je raconte leur périple, les difficultés qu'ils rencontrent. Et comme on est en pleine crise des Sudètes, bien évidemment, l'Allemagne a renforcé la surveillance aux frontières et quasiment fermé ses frontières. Donc c'est quasiment impossible de passer, même si les sœurs sont d'accord, c'est-à-dire elles prendraient un risque, elles ont toutes accepté de faire ce travail et d'aider. Mais deux problèmes se sont posés. Où entreposer les manuscrits en Suisse ? Alors, il y a eu plusieurs solutions, notamment de contacter des philosophes qui s'intéressaient à Husserl en Suisse, mais tous sont assez réticents à accueillir ces manuscrits. Et deuxièmement, c'est un trop gros risque à prendre pour ces bonnes sœurs, parce qu'il y a quand même 100 kilos de manuscrits. Oui, c'est quand même pas...
Trois grosses valises.
C'est pas très discret. Ouais. Et donc, le père Van Breda, comme la sœur Jägerschmidt, s'aperçoit à Constance que la situation est trop compliquée. Et que la guerre va bientôt être déclarée. Donc, Van Breda repart sur sa première idée, qui est celle de l'ambassade de Berlin. Et donc là, il repart avec ses valises à Berlin.
Voilà. Alors, on pourrait parler justement, parce qu'il est toujours en soutane, donc on le repère. Et on se dit, mais finalement, il va se faire mettre le grappin dessus par le dénommé Lehmann.
Oui.
Mais que le dénommé Lehmann, il est entre drogue, entre cartomancienne, petite femme, etc. Hein, c'est ça.
Oui, c'est, j'ai essayé de faire, de dépeindre le nazi
lambda
comme quelqu'un d'un peu vulgaire, venant de la rue, un peu analphabète. Aimant bien la violence et pas du tout, vous voyez, le fonctionnaire à la Eichmann, etc. Plutôt quelqu'un de frustre, voilà.
Mais vous voyez, hors antenne, nous parlions, moi je me faisais un portrait de Peter Lorre dans M le Maudit, et vous m'avez dit quelque chose, c'est très juste, en même temps c'était un physique, il avait une stature physique, alors que Peter Lorre, il est un peu...
Oui, il est un peu larvesque,
Mais il a une figure,
Alors que Lehmann, j'imagine plutôt... parce qu'il a vécu, il a fait la Première Guerre mondiale, ensuite il est devenu sans-abri, il a vécu pendant 3 ans dans la rue, donc je suppose que c'est quelqu'un plutôt qui a un physique sévère, sec, etc., encore assez sportif parce qu'il torture encore, donc plutôt une petite brute, quoi.
Oui, c'est ça. On va reparler de ces raisons, les raisons de Lehmann. On en parlera et pourquoi il est ainsi. Qu'est-ce qui l'a amené ainsi? On se pose des questions pour toute une partie d'ailleurs de la population allemande, il faut le dire. Pourquoi sont-ils devenus nazis? Pour là, on va écouter une musique interdite par les nazis, c'est-à-dire de jazz. Et c'est Glenn Miller qui était interdit, tout autant que d'autres. Peut-être qu'était-il juif, d'ailleurs, je n'en sais rien. Mais en tout cas, surtout, il jouait du jazz et ça, c'était une musique pervertie, je crois.
Parole d'auteur. Monique Fauché.
Le sauvetage, roman, roman historique, enquête, polar, on peut tout choisir là, tout prendre. Un livre édité chez Bayard, un roman édité chez Bayard, écrit par Bruce Bégou, qui est ici dans nos studios. Il s'agit donc de ces écrits du philosophe Husserl, qui est mort peu de temps en 1937 ou 38.
38 avril, 38.
Et qui laisse en héritage des kilos de manuscrits, non, sténographiés. Voilà, et on ne sait pas ce qu'ils contiennent, mais on pense que ce sont des pépites. Et donc, un jeune franciscain vient de l'Université catholique de Louvain pour s'enquérir de ses écrits, et il va se retrouver avec ses écrits sur les bras, puisque la veuve de Husserl va les lui confier en toute confiance et à juste titre. Alors, oui, on parlait de celui qui essaie de le pister. C'est un personnage que vous avez inventé, je suppose.
Oui, bien sûr.
Mais en définitive, il devait être sur surveillance quand même, certainement.
Oui, oui, on peut supposer que les activités, d'ailleurs tous les couvents ou toutes les congrégations étaient surveillées. Surtout d'ailleurs après, comme j'ai indiqué, la publication de Mitbrennender-Sorge, où les relations vont se tendre. Et donc Hitler et Himmler vont... font mettre en place une politique anticatholique, hein, suppression des crucifix dans certaines écoles, refus des pèlerinages, des manifestations publiques. Enfin, ils vont contraindre les catholiques à ne pas quitter l'enceinte de l'Église, et même parfois eux-mêmes vont y rentrer, molester des curés, etc. Donc il y a tout un climat, oui, très anticatholique. Oui.
Mais vous savez que ça, beaucoup de gens l'ignorent.
Oui. Oui, mais pour les nazis, leur idéologie était une idéologie païenne, raciste et biologique, et donc les catholiques, les juifs, c'était la même chose, quoi.
Pour eux,
c'était une morale, bon, un peu de
qui ne les concernait
pas. Faibles,
comme
disait Nietzsche. Oui.
Et je vous lis, l'idéologie nationaliste et raciste était résolument antichrétienne. Elle honnissait plus que tout l'idée de culpabilité, d'égalité des races, d'amour et de pardon, ces fariboles de gonzesses, de pédés et de nègres, de sous-hommes impuissants qui voulaient détruire la force pure et contaminer le sang avec leur morale pleurnicharde. Jésus était juif, c'était aussi simple que ça. Toute la Bible, et pas seulement l'Ancien Testament, transpirée par tous les pores, le mercantilisme juif, avec ses histoires de marchands de bétail et de souteneurs prêts à vendre femmes et enfants. Voilà. Et Lehmann est imprégné de ça, d'autant que lui, il s'est senti humilié.
Oui. Alors, le passage que vous venez de lire, j'ai quasiment... même si c'est moi qui parle, c'est quasiment des citations du Sturmer, qui était l'organe un peu vulgaire de Streicher, qui était... Bon, et toutes ces phrases-là, mais on les trouve déjà dans Mein Kampf de Hitler. Hein. Il dit très clairement sa position contre l'esprit catholique et contre la tradition catholique, qui a tué l'esprit germain, etc. Donc il s'agit de déchristianiser...
Deutschland-Uberales.
Voilà, de déchristianiser l'Europe, quoi. Parce qu'au fond, l'Allemagne s'est toujours pensée, vous savez, l'Empire germain, romain et germanique. Donc il s'agit au contraire d'opposer l'Empire germain contre Rome. Quoi.
Oui.
Donc oui, Lehmann, lui, c'est un personnage que j'ai inventé, qui a fait la Première Guerre mondiale, qui en est revenu brisé intérieurement.
Il y a eu une humiliation générale. Hein,
oui, oui, et qui ne peut plus...
Versailles.
Voilà, qui ne peut plus... pour ce choc psychologique fait qu'il commence à perdre les pédales un peu, et il se retrouve à la rue pendant 2-3 ans, vivant de charité. Et c'est là où il rencontre certaines, missions de charité
chrétienne.
À Munich, chrétienne, et pour lui c'est humiliant, et donc il nourrit déjà une sorte de haine anticatholique dans ce souvenir des missions. Et après... Comme je l'ai indiqué, il aurait pu très bien basculer dans le camp des anarchistes ou des communistes, hein, c'est-à-dire ce malaise social, sauf que bon, c'est quelqu'un du parti nazi qui lui tend la main, et puis il est embrigadé là-dedans, mais là, il n'a pas vraiment de conviction idéologique, si ce n'est qu'il aime bien faire preuve de violence et le parti lui permet de gravir certains échelons et ensuite il va pouvoir exprimer son anti-catholicisme puisqu'il va rentrer dans cette section de la
et
Gestapo.
Et d'ailleurs, beaucoup de religieux, surtout dans le petit clergé, ont été déportés dans des camps de concentration.
Oui, dès 33, vous avez des catholiques déportés, surtout après 36-37. Donc les premiers à partir sont les communistes et les catholiques, Dachau, Amathausen.
L'évêque de Münster, von Galen, a été vraiment admirable, car il a pris tous les risques. Oui. En revanche, par exemple, l'évêque de Fribourg ne l'a pas été autant. Oui. Enfin voilà, il y a ceux qui ont fait le mauvais choix, par faiblesse, par peur, on ne sait pas trop. Le philosophe Martin Heidegger aussi a fait un mauvais choix. Il a trahi Husserl d'une certaine manière.
Oui, d'ailleurs, il est présent, il n'est pas nommé, mais il est présent dans le roman.
Vous ne l'avez pas nommé.
Non, je ne l'ai pas nommé, oui. Bon, il ne le méritait pas. Non, mais c'était une forme comme ça d'omerta, mais bon, tout le monde l'a reconnu. Et j'en fais un portrait d'ailleurs assez méchant. Voilà, où je le compare au fond à la position morale de Husserl et la sienne qui a été plein de compromis, de faiblesse morale et d'opportunisme aussi. Oui.
Voilà. Alors, évidemment, à plusieurs reprises, il y a des chapitres consacrés à saint François d'Assise.
Oui,
Alors, évidemment, notre personnage est un franciscain.
Oui.
Qu'avez-vous voulu faire ?
C'est-à-dire que, dans mon idée, je ne voulais pas traiter de manière psychologique le personnage de Van Breda. C'est-à-dire on ne sait jamais pourquoi il agit. Et on n'est jamais dans sa psychologie, à part à la fin où il a un moment de doute, mais il avance toujours, il a une certaine détermination, mais je ne suis jamais en train d'expliquer ses raisons, ses motivations, comme on dirait de nos jours, pour faire ce qu'il a fait, ni même son acte héroïque. Par contre, ce que j'ai voulu montrer avec ces quelques chapitres sur saint François d'Assise, c'est que sans doute l'image et le modèle de François agit encore dans l'action de Van Breda, et c'est comme si Van Breda refaisait au fond... Le parcours de François. Donc l'héroïsme de Van Breda, d'une certaine manière, retrouve la détermination de François, qui lui, alors, pour différentes raisons historiques, etc., s'engage comme ça dans une entreprise un peu folle, parce qu'à l'époque où François le fait, il y a de nombreux mouvements qui pourraient être considérés comme hérétiques, et les franciscains sont à deux doigts d'être considérés comme des hérétiques et comme les vaudois ou les cathares et peut-être d'être massacrés. Et donc là, c'était l'image de François, le parcours de François me permettait au fond d'expliquer la détermination et l'obstination de Van Breda sans passer par des raisons psychologiques.
Et oui, et vous dites, alors j'aurais aimé vous citer toute la page, vous dites parfois, il faut bien le reconnaître, on combat plus efficacement un régime despotique avec l'innocence la plus franche qu'avec la ruse. La candeur est une source d'énergie phénoménale. Alors que le bon est incapable de comprendre ce qu'est le mal, vu qu'il ne l'a jamais croisé sur son chemin et qu'il se laisse donc dévorer tout cru comme un joli chaton de calendrier lorsqu'il lui tombe dessus, la réciproque est aussi vraie. Les barbares ne soupçonnent pas dans leur vision rudimentaire du monde que des gens bien intentionnés puissent agir sans malice. Ils ont tellement tendance à croire que les autres sont uniquement motivés comme eux par la colère qu'ils ne peuvent saisir ce qui les fait vivre et avancer. Voilà. Lehmann ne peut pas comprendre, ne pourra jamais comprendre, évidemment. Alors, pour terminer, moi, je voudrais vous dire combien votre livre est agréable à lire aussi, je parle de l'écriture, de la construction justement, parce que la construction est faite de chapitres qui alternent avec des personnages. Hein, et on se retrouve à Louvain, il y a évidemment Léo Van Breda à Fribourg, il y a chez Malvina Husserl, il y a la Gestapo aussi, il y a plusieurs chapitres qui se croisent, entrecroisent et qui font la lecture très agréable parce que vive finalement, il y a de l'action aussi, il n'y a pas que de l'action. L'écriture est également, alors je dis ça pour nos éditeurs, ça va d'un registre à l'autre. Ailleurs, parfois, il y a des expressions familières. Il touchait sa bille en droit international, par exemple. Oui, des expressions actuelles. Effectivement, parfois, vous jouez avec des anachronismes. Vous citez Doineau, évidemment. Oui. Bon, pourquoi pas ? Ça, c'est la liberté de l'écrivain et l'originalité, l'intérêt aussi pour le lecteur. On devine aussi parfois une authentique colère de l'auteur.
Oui. Oui. En fait, je ne voulais pas faire un roman en costume. Je ne voulais pas faire un roman historique.
Voilà.
Et je voulais, j'ai mélangé les niveaux de langue pour rendre compte de ce chaos, et j'ai mélangé aussi, j'ai mis des anachronismes, etc., pour que le texte soit actuel, que ce soit pas trop, que ça sente pas trop la naphtaline, vous voyez.
Oui.
Et donc, pour rendre compte aussi de cette polyphonie, c'est-à-dire que Van Breda est plongé dans un monde où il y a un chaos de voix qu'il ne comprend pas, et il fallait que mon texte rende compte
de ce désordre
et de ces ruptures de ton dans lesquels il est, comme d'ailleurs l'idéologie nazie qui pouvait utiliser la vulgarité comme un langage très technocratique, etc. Et toutes ces voix, et donc, parce qu'au fond, je parle très peu de philosophie. Quelqu'un qui ne connaît pas Husserl peut très bien lire le roman. Je ne parle pas du tout du contenu des manuscrits. On a une Van Breda, c'est pas ce qu'il y a dedans. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était justement de ces modulations de ton pour rendre compte, voilà, de la pluralité et de l'éclatement un peu, toute proportion gardée, comme dans les écrits de Rabelais, vous voyez, ce côté polyphonique. C'est-à-dire, on peut utiliser le langage vulgaire, on peut utiliser le langage soutenu pour rendre compte d'une époque et de la diversité de cette époque, et ne pas imposer une seule langue qui serait la langue d'un narrateur omniscient, omnipotent, qui lisserait le récit.
Un roman de notre jour, et on n'a pas dit de nos jours, et on n'a pas dit et au lecteur d'aller le trouver, qu'il y a aussi beaucoup d'humour à bien des moments. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais voilà. Alors, merci Bruce Bégou. Je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit d'un roman intitulé Le Sauvetage aux éditions Fayard. Merci.
Merci à vous.